Et le titre du message ce matin, c'est « Prier sans cesse ». Donc, prier sans cesse, ça veut dire quoi pour vous? Pendant que je prends une gorgée d'eau, vous pouvez répondre, je vous écoute. Allez-y, après l'autre, pas tous en même temps. Nicolas, tu peux y aller, j'ai vu que tu allais boire, tu t'es arrêté, donc tu avais une réponse. Okay.
Le roi il a demandé qu'est-ce que tu as besoin. Il a dit j'ai prié à Dieu pour la sagesse, mais aussi il a répondu ça a duré 30 secondes, au moins pas, il était pas le roi. Il priait sans cesse, il était tout le temps dans le temps de Dieu.
Okay. OK. Quelqu'un d'autre? Oui, M. Tremblay? Amen. M. Dallaire? Amen. Super. Gilles? OK. Pour ne pas semer de confusion, prier sans cesse ne veut pas dire d'avoir les yeux fermés et la tête baissée tout le temps. Parce que ça serait difficile de prier en conduisant. On est d'accord? Oui, frère. Amen. Donc, notre vie entièrement. Monsieur Dupont. Oui, remercier Dieu pour toutes ses bontés, ses prières sans cesse. Donc, comme je disais, il n'y a pas nécessairement une position de prière, un temps pour prier. Il n'y a pas, il faut que je ferme les yeux, il faut que je baisse la tête, il faut que je mette le genou gauche avant en premier, ensuite, non. Que ma vie soit une vie de prière, que mon cœur demeure en prière, que mon esprit se porte devant Dieu pour toute occasion. Et si on le sait si bien que ça, vous avez tous donné des bonnes réponses. Maintenant, la prochaine question, priez-vous sans cesse. C'est fou, hein? T'as raison. On le sait ce qui est bon, mais on n'est pas capable de le faire. On sait que c'est bon pour nous, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ne sommes-nous pas tout le temps dans un état de prière? On sait que c'est bon pour nous. Selon vous, c'est quoi toujours les excuses qu'on donne pourquoi on n'a pas prié? Pas le temps. Pas eu le temps. Mais j'ai flippé 64 vidéos sur Instagram et 200 sur Facebook. J'ai parlé au téléphone 2 heures. J'ai joué avec mes enfants, je suis allé pelleter, j'ai été faire l'épicerie, je suis resté prendre un petit quelque chose qui m'intéressait, je suis retourné à la maison, j'ai pris une douche, j'ai écouté une émission, mais j'ai pas eu le temps de prier. Vous savez, si c'est pas dans votre agenda, et si c'est pas une habitude dans votre vie, vous allez prier par routine. Ça veut dire, si vous êtes habitué de prier le matin, vous allez toujours le faire le matin, c'est une routine. Si vous êtes habitué de prier avant de dormir, vous allez simplement le faire. Tandis que vous le savez que c'est une bonne chose à faire, on est tous d'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si vous avez quelque chose d'important à confier, confiez-le à quelqu'un d'occupé et ça va être fait rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que les gens occupés, ils ont un agenda à remplir. Ils veulent finir les choses pour passer à autre chose. Mais quelqu'un qui n'a rien à faire, OK, on le fera plus tard. Et si vous venez à mon bureau, vous allez voir, j'ai plein de petits mots, de petits dictons. Et il y en a un dans mon bureau qui dit, pourquoi me remettre à demain ce qu'on peut refaire le lendemain? Pourquoi je le ferai demain? Je peux le faire après-demain. Mais c'est ça, quelqu'un qui n'est pas occupé. Et si ce n'est pas dans notre agenda, la prière devient quelque chose de secondaire. Écoutez cette phrase d'Aristote. Il dit, l'excellence n'est pas un hasard, mais une habitude. Donc, celui qui réussit, c'est parce qu'il en a pratiqué longtemps. L'excellence n'est pas un hasard, mais une habitude. Donc, celui qui réussit, ce n'est pas un coup de hasard. Si ce matin, c'est Mathieu qui m'avait dit, prends la guitare et fais la louange, je vous le promets, vous serez traumatisé. Il n'est pas bon parce qu'il s'est levé un matin et tu as appris à jouer la guitare. Ce n'était pas comme ça il y a la première journée que tu as pris une guitare, Matt, n'est-ce pas? Donc, il y a eu beaucoup de travail. Mais la prière, ça doit devenir une habitude, une seconde nature dans votre vie. Jésus donne un exemple aux disciples. Pourquoi prier? Il y avait un juge, inique dans une ville, qui n'avait aucune crainte pour Dieu. Mais aucune crainte pour Dieu, rien du tout. Il ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » L'exemple que Jésus donne, même un homme qui n'a aucune crainte pour Dieu, il est le juge, il a la plus haute position. Et il y a quelqu'un qui lui demande de faire justice. Lui, il n'a point d'égard pour Dieu, lui, il s'en fout de Dieu. Un peu comme nos juges d'aujourd'hui. Il dit, juste parce qu'elle m'emmerde. C'est ce qu'il dit, en français courant, c'est ça. Elle me casse la tête. Je vais lui faire justice juste pour qu'elle arrête de venir dans mon bureau. C'est même parce que j'ai envie de te faire justice. Ça ne me tente même pas d'être juste à ton égard, mais je ne veux plus te voir la face. Fait que je vais te donner raison. Oui, je vais te faire justice. Jésus va leur dire, écoute, un tel homme insensé est capable de faire une bonne chose. Combien à plus forte raison, si vous priez, Dieu ne répondra pas à vos prières. Écoute, moi, si j'ai ça comme exemple, je vais prier tout le temps, n'est-ce pas? Ça ne vous encourage pas à prier, ça? Jésus donne un exemple que même quelqu'un qui n'a point d'égard à moi, quelqu'un qui n'aime même pas, qui n'a aucun respect ni pour Dieu ni pour personne, et je vous le rassure, vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un comme ça. Et cette personne-là dit, écoute, juste pour qu'elle me laisse tranquille, je vais répondre à sa demande. Je vais lui faire justice. Il y a aussi la parabole de celui qui vient demander le pain. Vous vous rappelez? À son voisin. Et son voisin lui dit, « Il est trop tard, je suis couché dans mon lit avec mes enfants. » Et Jésus va dire, « Juste pour qu'il arrête de frapper, juste pour qu'il me laisse dormir, il se lève, il va donner le pain. » Jésus est en train de leur montrer, il est en train de nous montrer aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que vous ne veniez pas à moi et priez. Vous frappez dans les portes des hommes, ils vous ouvrent malgré leur cœur tordu et méchant. Moi qui suis un bon Dieu, pourquoi vous ne venez pas me voir? Posez-vous la question. Christ montre à ses disciples, il montre à ses contemporains, écoutez, vous allez vers des gens qui n'ont même pas envie de vous répondre. Mais tellement que vous frappez, ils sont tannés de vous entendre, ils vous le donnent. Est-ce que vous avez déjà eu un enfant qui vient, « Papa, papa, maman, maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Là, tu es comme, « Non, c'est pas brave. Ah, bah, ok, tiens-le. » Je chante beaucoup de parents qui ne veulent pas rire parce qu'ils se retrouvent dedans, mais ce n'est pas grave. Moi, je me retrouve dedans à plein. Mais est-ce que vous allez frapper à la porte de Dieu? Ou est-ce que c'est juste une option? Et je vous le dis, dans le pays où ce que nous sommes, pour la plupart des chrétiens, la prière, c'est une roue de secours. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Parce qu'on se dit, de toute façon, on va quand même manger demain. On va quand même avoir une maison. On a quand même deux voitures. On a les moyens pour mettre du gaz dedans. Bon, pour ces points-là, je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis capable tout seul. Maintenant, oh, il y a un frère à l'église qui est malade. Bon, OK, ça, on peut aller prier, mais il y a des médecins, mais quand même, on va aller l'encourager. Le malin nous fait croire que nous sommes tellement bien que nous oublions l'essentiel. C'est le danger de la richesse. Ce n'est pas que la richesse, elle est mauvaise. C'est que le danger de la richesse, c'est qu'elle nous fait croire qu'on est autonome et qu'on n'a pas besoin de Dieu en toute chose. Pourtant, c'est très mauvais. Quand nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu, c'est là que nous avons besoin. Et si il y a une chose qu'au Québec, qu'au Canada et quand dans les pays riches qu'on doit apprendre des pays pauvres, c'est d'apprendre à s'attendre à Dieu. Bon temps comme mauvais temps. Je vais faire des questions-réponses. Cette fois-ci, je vais lire la question et je vais donner la réponse. C'est de Nine Marks, de John Onoshuaka, qui a fait un très bon livre sur la prière. Et ensemble, on va vraiment écouter les questions et on va répondre ensemble. Si vous voulez prendre des notes, faites-le. Ça va être vite, sinon, mais je pourrais vous envoyer les notes par la suite. Donc, quelques questions sur la prière. Que révèle notre manque de prière? La question, la réponse. Là où la prière est présente, c'est-à-dire quelque chose, c'est de parler, c'est de crier. Cela apprend à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Quand la prière est absente, cela renforce la supposition qu'on va bien sans Dieu. La prière non fréquente enseigne à l'Église que l'on a besoin de Dieu seulement dans certaines situations particulière dans certaines circonstances, mais pas tout le temps. Une église qui n'est pas en prière, c'est ça le message qu'on voit. Si on va en prière seulement quand il y a quelqu'un qui est malade, seulement quand on a un besoin, seulement quand il nous arrive quelque chose, seulement quand la COVID arrive et on ferme l'église, c'est qu'on est une église qui est malade. Une église doit être constamment en prière. Deuxième question, pourquoi avons-nous besoin de la prière collective? Là, c'est important de dire, ah, mais moi, je peux prier chez moi. Vous avez raison, vous pouvez prier chez vous. Mais n'abandonnons pas l'assemblée de nous-mêmes. Nous pouvons prier aussi de manière collective. La prière est l'oxygène du chrétien. Elle nous maintient en vie. Elle doit être donc une source de vie pour toute communauté de chrétiens. Elle est pour l'Église ce qu'elle est pour l'individu, une respiration. Cependant, plusieurs de nos rassemblements pourraient être comparés à des réunions de personnes qui se retrouvent uniquement pour retenir leur respiration ensemble. Cela pourrait expliquer pourquoi les gens semblent avoir si peu d'énergie pour réellement vivre la vie chrétienne. La prière nous rend humbles comme rien d'autre ne peut le faire. Quand on prie, on se souvient que la prière n'est pas comme les autres disciplines dans le monde, qui nécessitent d'impressionnantes aptitudes et des entraînements répétés pour produire de grands résultats. Si quelqu'un espère être récompensé ou rémunéré pour jouer d'un instrument de musique, par exemple, il doit d'abord acquérir un certain niveau de maîtrise et des années de pratique. Les bons résultats naissent d'un entraînement sur le long terme. Maintenant, est-ce que la prière doit être éloquente? Si la prière est comme une respiration, elle n'a rien à voir avec notre compétence. On ne vient pas ici pour épater la galerie. On ne vient pas prier en collectivité pour dire, écoute, on va faire nos plus belles prières. Le but d'être ensemble, c'est d'élever la voix, d'élever notre cœur, de venir à la croix devant Dieu et de remettre nos besoins, nos désirs, de faire en sorte que l'Éternel soit notre délice. C'est fou de voir comment, dans les réunions de prière, on est 8, 9, 10, 12, gros max, 15, si c'est favorable. Quand Eric annonce la prière, on n'est jamais toute l'Église assise ici en train de prier, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent à tour de rôle, puis on est heureux. Mais la prière, si c'est notre oxygène, si c'est ça que ça nous prend pour vivre, comment ça on ne prie pas? Est-ce qu'on est en train de suffoquer? Est-ce qu'on est en train de mourir? Est-ce qu'on est en train de vivre sous respiration artificielle? Prier sans cesse, c'est important, l'Église. Ce n'est pas pour rien que les anciens ont pris le devant et de mettre un mois de prière à l'Église. D'habitude, c'est une semaine. On fait un tour de rôle avec Eric à des heures spécifiques. Et maintenant, on va avoir un mois de prière. C'est important de vous voir. C'est un rendez-vous. Parce que la prière, c'est notre oxygène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aime bien la prochaine question. La prière règle-t-elle toujours les choses? Qui dit oui? Qui dit non? Écoutez sa réponse. Écoutez bien. Considérez la prière comme la prescription de Dieu pour vivre dans un monde déchu. Et là, je vais titiller les médecins en plus, le mien d'abord. Cette prescription fonctionne de toutes les autres, fonctionne comme toutes les autres. Imaginez que vous allez chez le médecin, ils vous prescrivent un traitement pour une maladie qui vous cause beaucoup de soucis. Vous quittez peut-être le cabinet du médecin avec une simple feuille de papier en main. Mais quelque chose a changé. Qu'est-ce qui vous fait sourire alors que vous êtes encore malade? Même si votre maladie est grave et que votre situation n'est pas changée, mais vous êtes en train de sourire avec cette prescription en main. Une seule chose, l'espoir. L'espérance que je vais être guéri. Amen. Mais c'est ça la prière. Quand je vais voir mon médecin, il me dit « Ah, ça ne va pas, mais je te prescris quelque chose, ça va bien aller. » On dirait d'un coup, il y a un effet placebo. Je commence à me sentir mieux. Hein? Il y a de l'espoir. L'espérance en Dieu. Dieu exauce les prières faites selon sa volonté. Nous avons l'espoir que ça va aller mieux parce que nous avons un grand Dieu. Mais c'est ça la prière. Et cette image, c'est cette prescription que nous avons en main, ce modèle est de dire, « Ouais, Dieu m'a dit quelque chose et que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait tout son effet. » La prière, c'est cette prescription qu'on a en main. Qu'est-ce que la prière n'est pas? La prière est une conversation, n'est pas une, la prière est plus qu'une conversation décontractée avec notre Créateur, est loin d'être une façon de lui tordre un bras pour obtenir ce que nous voulons. Et je ne veux pas vous faire peur, mais je lisais un livre juste avant de faire ma prédication et l'auteur disait, la prière ne peut pas faire Dieu, ne peut pas faire en sorte que Dieu fasse ce qu'on veut, mais ça peut empêcher de Dieu de faire ce que nous ne voulons pas. J'ai fermé le livre. Je n'ai pas dit que je le lirais plus tard, mais je l'ai mis plus proche du foyer à brûler que à... Écoute, j'étais choqué. Et l'auteur avait l'impression vraiment que par la prière, il peut empêcher Dieu de faire ce que lui ne veut pas. Je vous le rassure, la prière n'est pas ça. Dieu est tout-puissant. Il est beaucoup plus fort que nous ne pouvons pas le contraindre. Il est trop fort. On ne peut pas marchander avec lui comme avec ma petite fille marchande avec moi. Je me retrouve là-dedans. Elle ne possède rien qui ne soit nécessaire ou que je veuille. Nous ne pouvons rien exiger de Dieu parce qu'il est impossible de le contraindre une personne qui n'a besoin de rien. Vous avez saisi la dernière phrase? Nous ne pouvons rien exiger de Dieu parce qu'il est impossible de contraindre une personne qui n'a besoin de rien. Donc, je ne peux pas manipuler Dieu. Et déjà aller dans des églises où ce que j'ai entendu, si vous donnez votre dîme, vous allez être guéri. Si vous donnez à Dieu, là, vous allez être plus riche. Je n'ai jamais vu cette équation dans la Bible. Puis on ne vous le dira pas non plus ici, ce n'est pas le cas. Donc, dernière question, à quoi sert la prière? Toutefois, quand nous prions, Jésus nous l'a enseigné. Nous nous souvenons que la présence de Dieu et sa personne sont précieuses, bien plus précieuses que ses dons. Dieu définit le plan et c'est mieux comme cela pour nous. Quand nous prions ensemble de cette façon, Dieu fait de nous une communauté de personnes qui confessent de notre dépendance de dépendre que de lui. Fondamentalement des circonstances, nous avons besoin de Dieu en tout temps et notre joie vient avant tout de la présence de Jésus, peu importe ce que nous obtenons comme bien matériel. Et vous savez quoi? Tandis que cette vérité est gravée dans nos cœurs par la prière, dans sa bonté, nous accorde une expérience plus profonde de sa présence. Je sais que c'est beaucoup de questions, beaucoup d'informations, mais est-ce que tout ça vous donne le goût de prier? Vous savez, quand vous manquez de gaz, là, quand ça ne vous tente pas de prier, quand je suis trop fatigué, juste rappelez-vous de ce qui s'est passé à la croix. Rappelez-vous d'un témoignage de qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie, au moins une fois. Si votre vie est tellement parfaite, rappelez-vous de la mienne et priez. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les gens qui sont à côté de vous. Priez pour les voisins. Priez pour le gouvernement. Priez pour votre quartier. Priez pour vos enfants. Priez pour l'école de vos enfants. Priez pour l'avenir de vos enfants. Priez afin que des prisonniers puissent être libérés. Priez pour que Dieu libère les esprits captifs. Et on peut aller comme ça des jours et des jours. Ce n'est pas des sujets qui nous manquent. C'est de la volonté. Si on n'a pas le regard fixé à la croix, c'est difficile de prier. Et souvent, les gens vont dire, « Ah ouais, mais j'ai les 9 points qui incitent à prier, j'ai une direction, j'ai un livre qui parle de la prière. » Je vous dirais ce matin, vous savez, dans mon auto, si je m'en vais à Québec, mon GPS, il me sert à quoi? À me donner la direction. Mais quand je manque de gaz dans mon auto, je ne mets pas mon GPS pour m'amener, même si j'ai la direction. Vous êtes d'accord? La prière, c'est le gaz. La prière, c'est ce qui va vous propulser en avant. La prière, c'est ce que vous avez besoin quand tout va bien et quand tout va mal. Paul nous dit qu'il apprenait à se réjouir dans la disette comme dans la richesse. Perdons cette illusion de penser parce que tout va bien dans notre vie, dans cet aspect-là, dans cette sphère de ma vie, « Oh, je n'ai pas besoin de prier, tout va bien. » C'est de l'arrogance, c'est de l'ignorance. On a besoin de Dieu en toute occasion. Matthieu, maintenant, pasteur Yves. Devons-nous apprendre à prier? Est-ce que ça s'apprend, ça, à prier? Est-ce qu'on apprend à prier pour impressionner nos voisins, nos frères et sœurs, ou on apprend à prier pour mieux développer notre relation avec Dieu? Quel est le but d'apprendre à prier? Et dans Matthieu 6, que Pasteur Yves est en train de nous mettre, voilà ce qui attire mon attention dans le texte. Vous savez, Jésus a déjà parlé, prêché, enseigné plusieurs reprises. On est d'accord avec ça? Et vous avez déjà lu dans la Bible qu'il y en a qui ont fait cette déclaration, « Nous n'avons jamais vu un tel homme parler comme lui. » Vous avez déjà entendu ça? Il devrait être éloquent, impressionnant, avec une vérité sans pareil. Mais voilà ce qui marque dans ce verset-là. Tous les gens qui ont appris, et même ceux qui ont déclaré que, écoute, nous n'avons jamais entendu personne parler comme lui, ils n'ont jamais demandé à Jésus, montre-nous comment parler comme toi. Montre-nous cette éloquence. Montre-nous comment prêcher comme toi. Montre-nous comment enseigner comme toi. Non, les disciples ont dit, apprends-nous à prier comme toi. Ce matin, si vous pensez le ministère le plus important d'une église, c'est le ministère de la parole. Si je viens ici sans prière, je ne vaux pas grand-chose. Si je viens ici vous parler de moi, vous êtes mieux de rester chez vous, c'est beaucoup plus intéressant. On ne va pas dans la parole de Dieu sans l'aide de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu à moins que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse grâce de sa révélation de sa parole. Donc, je ne viens pas devant vous sans prière. Demandez à Dieu sa grâce afin qu'il puisse vous illuminer, qu'il puisse vous ouvrir le cœur. Moi, je n'ai pas la possibilité de faire en sorte que cette parole pénètre votre cœur. Je peux juste demander cette grâce à Dieu. Et c'est ce que je fais à tous les jours. Dieu permet qu'en tant que pasteur de cette église, que ma vie soit un modèle, que la vie des pasteurs soit un modèle, que ma vie de prière puisse être entendue pour cette assemblée. Apprends-nous à prier. Quelle belle demande. Apprends-nous à prier. Après l'avoir entendu prier, il dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Et ses disciples l'ont entendu enseigner. Vous imaginez l'impact de cette prière que Jésus a dû faire. Je sais, si Jésus serait là ce matin, on lui aurait demandé beaucoup de choses, des miracles, n'est-ce pas? Il y en a qui ont demandé des miracles, il les a refusés. Il y en a qui ont demandé, guéris mon enfant, la femme de perte de sang, guéris-moi. Toutes des demandes légitimes. Mais cette demande, pour moi, elle est on top, au-dessus de tout. Montre-nous comment prier. Et on va lire ensemble cette prière. Et je dis bien ensemble. Pasteur Yves va le mettre. On lit ensemble. Voici donc comment vous devez. Attends, j'ai dit ensemble. J'exclus personne quand je dis ensemble. On y va? Notre Père qui est, que ton nom, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous. Ne nous induis pas à temps. Règne la puissance et la gloire. Amen. Vous avez fait la prière que Jésus a appris. Fait que tout le monde maintenant, vous avez tous prié. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas vous voir en février, n'est-ce pas? On va juste regarder rapidement cette prière. Notre Père. Déjà là, on est dans une catégorie, on est dans une position favorable. On est appelé fils. Intrinsèquement, on est appelé fils. Si je m'en vais chez vous pour la première fois et j'appelle votre papa « papa », vous allez me trouver un peu bizarre. Mais est-ce qu'on peut tous vraiment, de tout cœur, faire cette prière en disant « Notre Père » ? Est-ce que c'est notre Père ? Regardez votre vie, sondez votre vie. Est-ce que c'est votre Père ? Si oui, parfait. Sinon, il n'est pas trop tard. Notre Père qui es aux cieux, qui est le plus élevé, que ton nom soit sanctifié. Vous vous rappelez la dernière fois, j'ai dit honorer Dieu? Vous vous rappelez? Est-ce que dans sa vie, son nom, est-ce que dans votre vie, son nom est sanctifié? Est-ce que vous gardez cette marque de respect, d'honneur, de sainteté face à son nom? Vous savez, dans la vie, il y a des fois qu'on prendrait des décisions assez drastiques face à une situation quelconque. Et pasteur Jeff aime dire, il y a des claques qui se perdent. Mais est-ce que certaines claques sanctifieraient le nom de Dieu? Fait qu'on garde les mains dans les poches, s'il vous plaît. Parce que son nom dans nos actions doit être sanctifié. Que son règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que son règne vienne? Vous l'appelez à être roi sur votre vie. Et vous savez qu'un roi, autrefois, a le droit de vie ou de mort. Hein? Alors, vous voulez que vraiment que son règne vienne. En d'autres mots, vous lui dites, je vais me soumettre à toute ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, on y va maintenant. Une fois qu'on a élevé le nom de Dieu, on vient en second rang. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et j'aime ça, que ce soit notre pain quotidien et non notre pain de la vie. On viendrait juste une fois, n'est-ce pas? Mais à tous les jours, revenons à ses pieds, dépendant encore de lui, à tous les jours. Notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est ma préférée. Pardonne-nous nos offenses comme nous. Et ça, j'aime ça. Comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous n'avons pas pardonné, nous ne serons pas non plus pardonnés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, ce malin qui nous poursuit. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et cette phrase me rassure, j'espère qu'elle va vous rassurer quand on me dit qu'il va y avoir un gouvernement mondial. Je vous dis de relire la fin de notre Père. Car c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles, ce passé et à venir, le règne, la puissance et la gloire. Et après, on dit Amen. Fait que s'il va avoir un gouvernement mondial, ça va être mon Dieu qui va être le roi. Aucune crainte à avoir. Troisième et dernier point, Dieu exauce les prières. 2 Chroniques 7,14, un verset que je chéris encore. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Il y a des promesses à la prière. Et soyons comme des enfants, comme quand Pasteur Jeff a amené le chocolat, là, le sac de chocolat. Il n'y a aucun enfant qui s'est demandé... Combien de calories tu penses qu'il y a dans les bonbons en avant? Penses-tu que c'est bon pour la santé? Devrions-nous en prendre un ou deux? Hey, il y a des bonbons, on court! Premier arrivé, premier servi. Et les enfants, leur meilleure phrase quand il y a des bonbons, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'avoir cette même attitude face à la prière? Dieu nous promet, si on prie, si on s'humilie, si on cherche sa face, il va nous pardonner nos péchés, il va guérir nos maladies, il va nous en délivrer. Pourquoi c'est si difficile d'acquérir des promesses? Pourquoi c'est si difficile de faire confiance à Dieu? Il me semble que ça devrait être tellement simple. Seigneur, c'est ta parole. En ce moment, mon cœur ne désire pas ça. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de prier pour ce frère-là. Ça ne me tente pas de prier pour cette sœur-là. Il me tape sous les nerfs, mais je vais te faire confiance. Parce que moi aussi, je suis pécheur. Parce que moi aussi, je suis pécheresse. Parce que moi aussi, je mérite la mort. Est-ce que je t'avais donné Jacques 5, 16? Pas sûr, je te l'avais donné, il est à la fin. Lisons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. Est-ce que je dois vous convaincre plus que ça? La prière du juste a une grande efficacité. Pas que nous sommes justes par nous-mêmes, mais que Dieu nous rend cette justice par lui. Éphésiens 6, 18. Est-ce qu'on peut lire celui-là ensemble comme on a lu le Notre Père? Ensemble encore? Ce matin, je fais beaucoup d'exercices pour la voix. Vous allez être bien tantôt. Vous allez être prêts pour manger. Ça va être dégagé. Ensemble. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour... Gardez ce verset affiché, Pasteur Yves. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Pas seulement vous faites les prières, on veille à ce que les prières soient faites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de dire, « OK, moi, je choisis un ami que je vais appeler pour dire, écoute, cette semaine, rappelle-toi de prier, on va se texter pour dire, écoute, on va s'envoyer des petits sujets de prière et on va prier un pour l'autre. » Est-ce que vous êtes prêt à faire cet exercice-là avec quelqu'un? Dites-le vous, vraiment. Cette semaine, vous dites, « OK, moi, je choisis quelqu'un, puis je vais le texter une fois par jour pour le rappeler qu'on va prier. » Vous n'êtes pas obligé de prier ensemble, juste lui dire, « Écoute, je pense, prie. Moi, je vais prier de mon bord, prie. » C'est un petit défi que je vous lance. Devant Dieu et vous-même, veillez à ce que ça soit fait. Il est 52, ceux qui voulaient aller mettre les tables. C'est fait? Génial. Vous êtes trop rapide. Le dernier texte que je vais partager avec vous, Actes 6, 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pourquoi je prends ce verset en terminant? Vous savez que vos pasteurs, les leaders de cette Église, doivent avoir dans leur vie comme priorité la prière. Pourquoi je dis comme priorité la prière? Ici, on voit qu'est-ce que les apôtres ont demandé. Ils étaient à la tâche. Ils ont dit, donne-nous des diacres. Trouvez cet homme fidèle parmi vous pour faire cette tâche parce que nous, on n'arrive pas à prier comme on le voudrait. Si ce n'était pas important la prière, je pense que les apôtres garderaient ça tel quel. La structure d'une église, elle est importante et surtout pour libérer les pasteurs et les anciens pour prier, pour veiller, pour enseigner l'assemblée. M'explique. Vous allez voir, bientôt va arriver une structure qu'on prépare. Et Mme Marjolaine Dupont va vous appeler pour trouver des diacres dans l'Église. D'ici là, restez en prière pour voir où est-ce que Dieu vous appelle. Pas si Dieu vous appelle, parce que vous êtes déjà ici. C'est où est-ce qu'il vous appelle pour que vous soyez à la tâche. Parce que si nous, on est au four et au moulin, on ne peut pas prier comme on veut pour l'Assemblée. On ne peut pas se consacrer complètement au ministère de la parole et la prière. Alors, une église qui fonctionne bien, c'est une église où les pasteurs, les leaders, les anciens sont en prière et sont en train de veiller à ce que tout se passe bien dans l'Assemblée devant Dieu. Et ça, c'est le travail de toute l'église. Ce n'est pas juste le travail d'un petit groupe. C'est à vous de répondre à l'appel afin que nous soyons libérés à notre tâche pleinement devant Dieu. Et ce matin, la prière n'est pas plus importante pour moi qu'elle l'est pour vous. Je suis tout aussi un membre de l'Église comme vous. Vous avez besoin de prier. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Vous avez besoin de vous impliquer dans votre Église. C'est la vôtre. C'est la nôtre. Mais on ne va pas s'impliquer sans la prière. On a vu plusieurs points, pourquoi prier, comment prier, à quoi servait la prière. Maintenant, ma question, c'est, allez-vous faire de la prière le moteur de votre vie? Vous allez le garder comme une roue de secours. Sincèrement, je pense qu'on n'a plus le temps de faire semblant. On n'a vraiment plus le temps de faire semblant. Et si vous faites semblant, je vous le garantis, le malin, il ne fera pas semblant. Et je ne veux pas vous faire peur. On ne prie pas seulement pour le malin, on prie pour avoir une relation avec notre Dieu. Pensez à ce que vous faites à tous les jours. Pensez comment votre semaine se déroule du dimanche au dimanche. Est-ce que vraiment vous n'avez pas le temps de prier? Répondez à vous-même. Répondez à vous-même, devant Dieu. Notre rôle, c'est de veiller sur l'Assemblée. C'est ça notre rôle, c'est de nourrir l'Assemblée. C'est de paître l'Assemblée de Dieu. Est-ce que vous aimeriez avoir un pasteur qui ne prie jamais? Vous pouvez répondre, hein? Est-ce que vous aimeriez avoir un pasteur qui dit « Oh, pff, moi je prie là quand je m'en rappelle. » Vous aimeriez ça aller chez un médecin, vous lui dites « Oh, moi j'ai un problème. » Il dit « Oh, moi ça fait longtemps, je n'ai pas pratiqué, mais on verra. » Priez pour nous, nous avons aussi besoin de prière. Il n'y a pas les pasteurs, puis il y a vous. Il n'y a que nous. On a besoin les uns des autres. Je prie pour vous. Et quand je ne me rappelle pas de vos noms, j'ai dit, Seigneur, tous ceux qui ont mis leurs pieds ce dimanche à l'église, je les remets entre tes mains. Tu les connais mieux que moi. Ce n'est pas besoin de savoir mon nom pour prier pour moi. Celui qui m'a cassé les oreilles aujourd'hui à dimanche, Seigneur, je te prie pour lui. Il sait de qui vous parlez. La Bible parle, si vous voulez être une église en santé, ce n'est pas seulement la prédication, mais c'est aussi et d'abord la prière. C'est vrai que le dimanche, c'est un grand rendez-vous qu'on vient célébrer ensemble, qu'on vient adorer ensemble, qu'on vient chanter ensemble. Mais si la semaine, on n'a pas de relation avec Dieu, qui adorons-nous? Qui célébrons-nous? Qui chantons-nous? Si on est des chrétiens du dimanche, il y a un problème là. Il y a un problème. Est-ce qu'on se lève le matin et qu'on dit, Seigneur, merci pour cette journée qui débute? On le remet déjà entre tes mains. Est-ce que nos actions qu'on pose sont en lien avec la prière qu'on a faite le matin? Seigneur, donne-nous la grâce de passer à travers cette journée. Ou dès qu'on arrive, la première des choses qui nous énervent, on pète une coche. Comment est votre vie de prière? Pour qui priez-vous? Pourquoi priez-vous? Et comment, dès aujourd'hui, vous allez changer ou continuer de votre vie de prière? Si vous écoutez un message et vous l'oubliez en sortant, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Vous devriez retenir et mettre en pratique. Si les musiciens veulent s'avancer pour un dernier chant, je vais finir en prière. La Bible parle, je veux simplement vous dire, que si une église ne prie pas, elle n'avancera pas. Et si elle avance, elle va avancer dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et ce matin, je vous invite à dire comme David, tout le monde ensemble, « Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On peut le dire ensemble, « Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie. » Seigneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul soit la magnificence au siècle des siècles. Seigneur, nous venons en tant qu'assemblée, en tant qu'un seul corps devant toi, Seigneur, car toi seul es Dieu. Nous venons, Seigneur, dire notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, merci de nous assurer dès le départ que toute notre vie est entre tes mains, Seigneur. Que chacun de nous est bien gardé entre tes mains. Et que tu nous protèges, que tu nous chéris, et que personne ne peut nous ravir de ta main. Alors, Seigneur, que cette assemblée, ici à Laval, en Afrique, Québec, Sherbrooke, Victoriaville, la Macasa, partout où ce que nous sommes, Seigneur, permet que la prière soit la source, Seigneur, soit le moteur de nos églises, Seigneur, de nos cellules. On veut remettre notre vie de prière devant toi. Et Seigneur, si ce n'est pas bien, conduis-nous sur la bonne voie, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre à rentrer en relation avec toi par la prière. Continue à nous montrer, Seigneur, ton chemin de prière, le chemin de la croix, afin qu'on demeure à tes pieds. Car, Seigneur, c'est à la croix qu'est la vie, Seigneur. C'est à la croix que tout est accompli. Merci pour ce dimanche, merci pour cette semaine. Merci pour chacun et chacune qui était là ce matin, qu'ils soient dans la salle, par Internet, et ceux qui réécouteront ce message. Puisses-tu, Seigneur, les toucher par ton Esprit Saint, car toi seul peux le faire, Seigneur. T'en prions, Père, aie pitié de nous et apprends-nous à prier comme ton Fils seul peut le faire. Dans le nom de Jésus, nous te demandons. Amen.